Entendre ce que l'Esprit dit aux Églises.
Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons entendre ce que le Fils de Dieu nous dit. Nous avons nos cœurs entièrement orientés vers toi. Te prions de nous être miséricordieux. Par ta miséricorde, parle-nous et rends-nous vivants par ta parole. Donne-nous la lumière par ta parole vivante. Seigneur, donne-nous des conseils. Ta parole nous sanctifie. Amen.
Ja, dann lass uns weitermachen mit der.
Continuons avec l'église à Thyatire.
Das Sendschreiben an Thyatira unterscheidet sich.
L'épître à Thyatire se différencie des autres.
Und Moment, ganz kurz. Ich muss ändern. So. Und zwar ist es so, weil das hier.
Et en cela.
Die Gemeinde Thyatira, der Herr von seinem Kommen redet.
Depuis ici, à partir d'ici, le Seigneur parle de sa deuxième venue, de sa venue.
Und es zeigt dann für uns heute, dass was wir bei Thyatira sehen, der Zustand des Christentums.
À Thyatira, nous voyons la condition du peuple de Dieu, que cette condition va rester jusqu'à la deuxième venue du Seigneur. C'est pourquoi, pour nous aujourd'hui, il est important de savoir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de l'Église, de ce qu'il dit à l'Église à Thyatira.
Den wir am Ende gelesen haben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
De plus,
der ist jetzt der letzte Vers.
Il dit ici, le dernier verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Cela nous montre à quel point il est important qu'aujourd'hui l'Esprit nous parle. Ce matin, nous avons parlé au sujet de Pergame.
Wir haben dort gesehen,
nous avons vu que la chute de l'Église a continué. Le Seigneur a appelé à la repentance, comme à Éphèse. Mais parce qu'il n'y a pas eu de repentance, eh bien, l'Église a continué de tomber.
Pergamon zeigt die Hochzeit der Gemeinde mit der Welt.
À Pergame, nous avons vu que l'Église s'est mélangée au monde. Ça signifie que l'Église est mariée avec le monde. Elle n'est plus la Vierge, l'épouse du Seigneur. Mais elle est devenue la grande Babylone, la grande prostituée. Elle a atteint un paroxysme. Vraiment le point le plus profond. Là, il y a un signe distinctif. Qu'une femme a pris le pouvoir, c'est Jézabel. Qui était Jézabel? Jézabel apparaît de la parole dans l'ancienne alliance. Elle y est décrite comme l'épouse du roi Akab. Akab l'a épousée et elle est la fille du roi Etzbal, un roi sidonien. Elle est une reine païenne. Et Akab s'est marié avec elle et s'est mélangé de ce fait avec le monde. Jézabel a vraiment conduit le peuple de Dieu à une chute profonde. Elle a commencé à persécuter les prophètes du Seigneur. Pourquoi? Elle ne voulait pas que le peuple de Dieu entende la voix du Seigneur. S'il n'y a plus de prophètes, alors personne ne peut entendre la voix du Seigneur. Alors elle a commencé à instaurer des prophètes personnels, c'est-à-dire des prophètes de Baal. Son but était que le peuple de Dieu n'obéisse plus à Dieu, mais qu'il devienne un peuple qui serve Baal. Et c'est vraiment un développement très négatif pour le peuple de Dieu. Nous voyons aussi, lorsque nous voyons l'histoire de l'Église, que Thyatire représente le temps du catholicisme romain. Nous voyons ici le même principe comme lorsque, du temps de Jézabel, l'Église catholique a commencé à empêcher que la parole de Dieu soit prononcée. Par exemple, il a été interdit de lire la Bible. Et l'Église catholique a persécuté les saints et les a tués. On ne pouvait plus entendre la parole de Dieu de façon si évidente. Pourquoi est-ce que l'ennemi a fait cela? Ce matin, nous avons entendu qu'à Pergame, le Seigneur vient avec l'épée tranchante à deux tranchants. Et Satan a compris qu'il n'a aucune chance contre cette épée. Il a appliqué une nouvelle stratégie. Et il a dit, l'épée doit disparaître. Il a compris que s'il peut détourner les saints de la parole de Dieu, de la parole vivante du Seigneur, alors il pourra les détourner de la façon la plus simple. Et c'est ce qui est vraiment arrivé aujourd'hui. Lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, à quel point il est facile de détourner les frères et sœurs. Nous voyons à quel point les frères et sœurs peuvent être détournés par des prédications sur YouTube et à quel point ils peuvent se laisser détourner par certains hommes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués à entendre la voix du Seigneur. Les frères et sœurs ne sont pas habitués à lire la parole de Dieu. Ils préfèrent regarder des prédications sur YouTube au lieu de lire pendant 20 minutes la parole de Dieu, de demander au Seigneur ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. Et que se passe-t-il lorsque nous n'entendons pas la voix du Seigneur, alors nous entendons beaucoup d'autres voix? Alors, tu ne sais plus ce qui est juste ou ce qui est faux. Alors, il y a beaucoup d'opinions. Il y a beaucoup d'opinions différentes, des milliers. Et c'est une confusion, comme à l'époque, à Babylone. Les voix, les langues qui sont confondues, chacun a sa propre opinion et veut la donner par rapport à l'œuvre de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, si vous mettez dans le moteur de recherche le livre de l'Apocalypse, alors on trouve des milliers de prédications, des milliers de versions différentes, d'interprétations différentes. Maintenant, allez trouver ce qui est juste là au milieu. Qu'est-ce qu'un enseignement humain? Qu'est-ce que la vérité? Cela nous montre aujourd'hui à quel point c'est important qu'à Sion, nous soyons de telles personnes qui lisons la parole de Dieu avec joie, qui entendons la parole du Seigneur. C'est la meilleure protection pour les saints. Dans la première réunion, nous avons déjà entendu à quel point la parole vivante du Seigneur est importante pour nous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit,
quand
il parle à l'Église à Thyatire, en premier lieu, il dit, c'est ce que dit le Fils de Dieu. D'un côté, tu as Jézabel. Et ensuite, le Seigneur vient et puis il dit, maintenant c'est moi qui parle. Et j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous aujourd'hui de prendre uniquement ce que le Fils de Dieu nous dit. Et aussi de mettre à l'épreuve, d'éprouver à l'endroit où tu es, dans l'église où tu es, où tu vas, qui a la parole, qui parle, qui décide de toutes choses. Nous ne devons pas considérer cela de manière légère. Il est essentiel que ce soit le Fils de Dieu qui parle. Si c'est Jézabel qui parle, alors tu es à Babylone. Si ce n'est pas le Fils de Dieu qui parle, alors tu es automatiquement à Babylone.
Wer hier redet? Wer bestimmt?
Je demandais simplement, Seigneur, Seigneur, qui est-ce qui parle ici? Qui décide de tout dans l'église? Est-ce que ce sont les anciens? Est-ce que c'est le pasteur? Et c'est peut-être même l'épouse du pasteur et tu ne t'en rends même pas compte. Peut-être que celui qui conduit les jeunes est celui qui dirige. C'est si important aujourd'hui que nous sachions qui parle dans l'église. Est-ce que c'est le Fils de Dieu ou qui est-ce? Si cela ne nous est pas donné, alors atteindre la condition du Thyatire n'est pas très éloigné. Nous avions un graphe où nous avons représenté graphiquement la chute de l'Église et nous avons dit ici c'est Éphèse et ensuite un peu plus bas c'est Pergame et tout en bas nous avons Thyatire. Et ça allait très vite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu avait disparu. C'est pourquoi il est très important pour nous d'éprouver la parole et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce bien toi qui parles ici? Considérons Jézabel. Jézabel, son nom veut dire, de manière très étonnante, veut dire vierge. Le Seigneur dit qu'elle entraîne son peuple à la débauche. Et dans Apocalypse 17, il nous a dit que c'est la grande prostituée. Et son nom, pourtant, est la Vierge. C'est vraiment étonnant. Si nous prenons le nom de Thyatire, Thyatire signifie offrande perpétuelle. Est-ce qu'une offrande n'est pas bonne? Oui, en fait, oui. Mais si c'est une offrande donnée aux idoles, ce n'est pas bon. Thyatire était aussi connu. Dans Actes, nous lisons par exemple que le Seigneur, quelque chose en lien avec le pourpre, mais je n'ai pas compris avec la coupure. C'est une marchande de pourpre. C'était une ville qui était connue pour son commerce de pourpre. Si nous lisons Apocalypse 17, on peut ouvrir Apocalypse 17 à partir du verset 1.
Da wird nämlich dem Johannes die große Hure Babylon gezeigt.
On présente à Jean la grande prostituée Babylone.
Da heißt es ab Vers 1, es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten.
Verset 1. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ensuite, Jean dit, Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. J'étais très étonné. Et je dois vraiment dire que j'étais vraiment aussi étonné que Jézabel signifie vierge, que Thyatir, c'est offrande perpétuelle. Cela manque pourtant un principe de Babylone. Babylone veut te tromper. Babylone a un principe. Cela, elle a l'air véritable, mais en fait, c'est une copie. C'est une tromperie. C'est le principe de la religion. Intérieurement, elle est pleine d'immondices, mais extérieurement, tout.
Jemand von euch mal in der orthodoxen Kirche war? Das ist ja da, wo ich herkomme.
Quelqu'un d'entre vous est allé dans une église orthodoxe. C'est de ce milieu que je viens. Alors, vous pourriez voir que tout a l'air si bien. Les fenêtres sont décorées. Il y a des belles images.
Qui
décrivent des scènes de l'Évangile. Et il y a un autel qui est paré d'or, décoré, il y a un Nouveau Testament, il est grand, il y a des côtés, il y a des pages en or, et tout a l'air très noble. Et si on y va à Pâques, en ces jours, alors tout le monde s'habille d'une certaine façon. Même le prêtre a un très beau, bel habit. Tissé d'or, comme nous l'avons lu.
Mais
en vérité, il y a plein d'idolâtrie à cet endroit-là. C'est rempli de prières pour les morts, de culte à Marie, élévation des saints. C'est vraiment étonnant et cela fait peur. Effrayant. De l'extérieur, ça a l'air si bien, mais intérieurement, c'est plein d'ossements. Cela nous montre quelque chose. Que c'est un principe de Babylone. Cela trompe même les saints. Aujourd'hui, nous devons voir, est-ce que là où je suis, est-ce qu'il y a quelque chose où l'ennemi me trompe? Est-ce que c'est une religion extérieure? Est-ce que c'est quelque chose qui est caché et je ne peux pas le reconnaître? Par exemple, peut-être qu'on va y accentuer, tu dois tenir le sabbat, respecter le sabbat. Mais la question est-ce que c'est le Seigneur qui le dit? Est-ce que le Seigneur a prononcé cette parole ou est-ce du levain? Comment pouvons-nous reconnaître cela? Comment peut-on reconnaître ce qui vient de Jézabel? Ce qui est une tromperie ou ce qui vient du Seigneur vivant? Tu as besoin des yeux du Seigneur comme cette flamme de feu. Devant les yeux du Seigneur, il n'y a rien qui est caché. Le Seigneur peut vraiment voir toutes choses. Lorsqu'il considère les choses avec ses yeux de flamme de feu, il voit en profondeur. Autrefois, lorsque j'étais comme servant dans l'église orthodoxe, c'était difficile pour moi à distinguer que ce qui est là où je suis, ça vient pas du Seigneur. C'est très, très difficile pour moi. J'étais né dans ce milieu. J'ai grandi dans ce milieu. Et parfois, il était très difficile pour moi de distinguer parce que toujours et à nouveau, j'ai toujours vu des choses qui étaient bien. Je n'ai pas vu la condition qui était déchue. Et dans un centre biblique, dans un cercle biblique, un frère a lu un verset de Corinthiens. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. 1 Corinthiens 6, 15 à 18.
Willst du vorlesen, Thomas? Will jemand vorlesen?
Est-ce que quelqu'un veut le lire? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car a-t-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je crois en fait c'est 2 Corinthiens qui voulait dire. C'était 2 Corinthiens, excusez-moi. Mais ces versets étaient aussi bien. 2 Corinthiens. 6:15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. »
Amen. Als der Bruder diesen Vers vorgelesen hat,
le frère a lu ces versets, alors cela a touché mon cœur. Autrefois, cela m'a vraiment fait tomber les écailles de mes yeux. Et j'ai vu que je devais sortir de ce milieu. J'ai vu que ce système n'a rien à voir avec Christ. Qu'est-ce que Christ a à voir avec Bélial? C'est vraiment la question décisive.
Je ne peux
pas lier Christ à quelque chose que j'estime être juste. Qu'est-ce que Christ a à voir avec Noël? Qu'est-ce que Christ a à voir avec les lapins? Souvent, les croyants ne le voient pas. Mais Paul nous dit ici, quelle part est-ce que Christ a avec Bélial? Tu ne peux pas lier Christ à quelque chose qui te semble juste. Cela m'a vraiment ouvert mes yeux à l'époque. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus retourner là-bas. Et au début, je suis encore retourné quelques fois parce que je ne voulais pas blesser ma famille. Mais ce sentiment intérieur en moi était plus fort. Je devais sortir de là.
Und deshalb weiß ich, dass es nicht einfach ist.
Pourquoi? Je sais qu'il n'est pas facile à discerner. Est-ce que là où je suis, là où j'ai grandi, est-ce que c'est Sion ou est-ce que c'est Babylone? Cela nécessite que le Seigneur m'ouvre les yeux. Satan, en ces derniers temps, a vraiment perfectionné la tromperie. Je te vous donne un exemple. Vous savez que les œuvres d'art sont très chères, spécialement si le peintre est décédé. On paye peut-être des sommes astronomiques, des millions. Tu peux simplement aller quelque part. Tu peux utiliser une copie, une imprimante, et puis imprimer, faire une copie de l'œuvre, mais tu peux même la suspendre, mais tu ne pourras pas la vendre. L'image sera très semblable à l'original, mais ce ne sera pas l'original. Parfois, les fausseurs sont tellement malins que seuls des spécialistes peuvent discerner ce qui est l'original et ce qui est la copie. Aujourd'hui, il en est de même. Il n'est pas si simple de reconnaître avec des yeux humains ce qui est de Babylone ou pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il a des yeux comme une flamme de feu. Pourquoi? Parce que seul le Seigneur peut voir toute chose. Pour les yeux du Seigneur, il n'y a rien qui est caché. Pour nous, ça doit être ainsi. Seigneur, regarde vraiment avec tes yeux de flamme de feu, là où, à l'endroit où je me rends. Éprouve-toi toi-même avec tes yeux. Je n'ai pas de tels yeux qui voient à travers toute chose. Tu as de tels yeux. Nous pouvons vraiment demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi comme toi tu vois les choses. Montre-moi la condition, ce que toi tu en penses. Il est bon aujourd'hui de prier pour nous. Seigneur, montre-nous ici à Sion ce qui ne te plaît pas. Le Seigneur seul sait ce qui a besoin de traitement et de guérison. Il s'agit aussi, c'est aussi valable pour nous personnellement. Par exemple, le psaume 139, les deux derniers versets. Psaume 139, les deux derniers versets. Verset 23
et 24. Da sagte David, erforsche mich, O Gott,
dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David savait que le seul qui pouvait sonder toutes choses était le Seigneur. Et si nous, nous laissons le Seigneur nous sonder de cette manière, alors il peut nous montrer où il y a encore des idoles. Paul a dit que l'avarice était une idolâtrie. J'apprécie vraiment ces yeux du Seigneur comme ces flammes de feu. C'est un médicament très sain. Se laisser vraiment sonder par ses yeux, par le Seigneur. Et aussi de dire au Seigneur, regarde l'église là où je me réunis. Regarde la réunion. Mon opinion ne compte pas. Mon jugement ne compte pas, mais c'est le tien. C'est ton verdict qui sera le bon. Cela n'est pas suffisant de dire que le pasteur parle si bien. Peut-être que il parle exactement ce que tu veux entendre, mais est-ce qu'il parle ce que le Seigneur veut dire? Nous devons vraiment nous demander cela. Prions le Seigneur pour que le Seigneur ouvre les yeux des captifs de Sion qui sont à Babylone. C'est vraiment un fardeau dans mon cœur. Leur soit miséricordieux et leur montre ce qu'est Babylone. Il y a des années de cela, nous avons eu une conférence à Bietigheim, c'était au sujet de Babylone. Nous avions le fardeau de donner une parole claire que les frères et sœurs qui ont écouté à l'époque puissent sortir.
Einige von diesen Brüdern damals haben dann
quelques-uns de ses frères à l'époque m'ont dit plus tard, parce qu'ils ont entendu cela, ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec nous. C'était trop dur pour eux. Mais plusieurs années plus tard, ils ont quitté leur groupe. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de suite. Et ils m'ont demandé conseil à plusieurs reprises par rapport à ce qu'ils devaient faire. Ils ont, en fin de compte, quand même quitté. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur ouvre les yeux des frères et sœurs qu'ils ne quittent pas seulement Babylone, mais qu'ils viennent à Sion. Sinon, ils vont refinir à Babylone. C'est très dommage. Cela doit être vraiment un fardeau pour nous, pour les saints aujourd'hui. Car auprès du Seigneur, c'est vraiment important. Le Seigneur regarde si les choses sont authentiques. Qu'est-ce que cela nous apporte si nous disons, comme dans certaines réunions de frères, que les sœurs doivent porter des robes. Et à la maison, ils ont des pantalons. Cela n'apporte rien. De manière extérieure, tu as mis une robe, mais dans ton cœur, le pantalon est quand même là. C'est un principe de Babylone. C'est pourquoi, à Sion, tout doit être authentique. Même la réunion le dimanche, la table du Seigneur, c'est quelque chose de réel, c'est une fête dans laquelle il y aurait de la joie. Ça ne doit pas être une tradition pour nous. Ça ne doit pas devenir une habitude. Tout ce qui devient une habitude et se transforme en Babylone, en fin de compte. Le Seigneur veut qu'à Sion, tout soit réel. Le Seigneur dit qu'il va tester, éprouver les cœurs et les reins. Il va donner à chacun selon son œuvre. C'est pourquoi ces deux points sont si importants. D'abord, la parole du Seigneur, mais aussi ses yeux qui sont comme une flamme de feu. Bien sûr, le Seigneur, dans son amour, qui n'est pas facile à saisir pour nous, Jézabel, il l'a appelée Jézabel à la repentance. Et il a même laissé du temps pour qu'elle se repente. Que nous avons lu tout à l'heure. Mais elle ne veut pas. C'est étonnant. À quel point le Seigneur est patient. Combien le Seigneur aime l'Église. Malgré cette condition qui est mauvaise, eh bien, le Seigneur appelle à la repentance. Et s'il ne le fait pas, il la jettera sur un lit de malade. Et si le Seigneur fait cela, nous ne devons pas essayer de la guérir. Par exemple, dans Jérémie, nous pouvons lire les versets. Peut-être quelqu'un peut les lire. Jérémie 51, verset 8.
Jérémie 51, vers 8.
Jérémie 51, 8. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle.
Bring Balsam für deine Wunden. Vielleicht kann es noch geheilt werden.
Mm-hmm. Vers 9 noch?
Verset 9 encore. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues.
Dieses Prinzip ist für uns auch heute sehr wichtig.
Wenn der Herr est aussi important pour nous aujourd'hui.
Die Gemeinde anschaut, wo du bist.
Si le Seigneur regarde son Église là où tu es et qu'il montre qu'il ne parle plus ici et que c'est devenu Babylone, n'essaye pas de la guérir. Tu n'as pas plus d'endurance que le Seigneur. Tu n'as pas plus d'amour que le Seigneur.
Il y a plusieurs années,
lorsque j'ai commencé mon travail chez Bosch, j'ai eu un entretien avec mon chef et on se présente à cette réunion et chacun a raconté. Le chef m'a demandé ce que j'avais dit. Moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas si vite et j'essaye toujours à nouveau de trouver une solution. Il m'a demandé, Monsieur Constantin, est-ce que vous chevauchez des chevaux morts? J'ai pas compris ça tout de suite. Et plus tard, on me l'a expliqué, mais le principe est toujours valable pour Babylone aujourd'hui. N'essaie pas de chevaucher ce cheval qui est mort. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux fouetter, tu peux même dire exhorter ce cheval. Mais à moins que tu sois assis sur le cheval blanc, cela ne marchera pas. Le cheval blanc va toujours de l'avant et est victorieux. C'est ce que j'ai aussi dû apprendre à l'époque. Parce que autrefois, je pensais, mais je dois essayer de sauver quelque chose du milieu où je me rendais. Mais il y a celui-ci et celui-là, il y a tel et tel, j'ai un fardeau pour tel et tel, mais je dois l'aider. Mais le Seigneur m'a montré, tu ne peux l'aider que si toi-même tu sors. Ne dilapide pas ton temps à cet endroit. Si tu sors et pourras te rendre à Sion, depuis Sion, tu peux recevoir la parole vivante du Seigneur, avoir le fardeau du Seigneur et aller avec l'amour du Seigneur, prier pour eux et dire, Seigneur, libère mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur veut faire. Vous savez pourquoi? Parce que le temps que nous avons est très court. Le Seigneur vit d'éternité en éternité. Lui, il peut s'occuper de Babylone. Mais notre temps est compté. Nous devons avoir un cœur pour venir à Sion. Notre temps doit être investi pour bâtir Sion. C'est pourquoi nous ne devons pas... À Thyatire, il dit que certains connaissent les profondeurs de Satan. Nous ne devons pas perdre notre temps à analyser ces choses, de quoi Babylone a l'air, à quel point elle est tombée, ce n'est pas notre tâche. Laissons le Seigneur s'occuper de cela pour qu'il puisse faire sortir, et ayant un cœur pour les captifs de Sion, pour qu'il puisse les faire sortir. Nous devons sortir, a dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que la seule chose qui aide, c'est le jugement. C'est pourquoi le Seigneur qui se présente est celui qui a des pieds comme de l'airain ardent. Il n'y a plus que le jugement qui peut aider dans cette situation. Vraiment. Le Seigneur ne peut que juger. C'est pourquoi il dit à son peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ses souffrances, à son jugement. Qu'est-ce qui est mieux, recevoir l'étoile du matin ou subir le jugement de Babylone? Pourquoi? Bien sûr, l'étoile du matin. C'est pourquoi nous devons nous porter nos regards à ce que nous allions à Sion. Que le Seigneur nous mette aussi sur notre cœur, nous montre à quel point Babylone est dangereuse. Que nous ayons aussi un fardeau pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne vraiment un cœur large pour eux. Nous devrions aller vers des frères et sœurs que le Seigneur nous donne sur le cœur avec une prière pour que le Seigneur leur ouvre les yeux. C'est vraiment important que nous ayons un tel fardeau pour les saints. Car la plaie, le jugement que Babylone va recevoir est très lourd. Dans Apocalypse, nous lisons que Babylone reçoit vraiment un jugement qui est très très lourd. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer un chemin que le Seigneur nous a donné comme protection afin que nous ne soyons pas entraînés dans cette direction-là. C'est lorsque nous fêtons la fête des pains sans levain. Cette fête doit vraiment nous devenir précieuse, afin que nous soyons journellement entraînés à balayer même le plus petit levain. Ne laissons pas entrer dans l'Église le moindre levain, que nous puissions le balayer. J'aimerais aussi encourager les saints à parler au sujet de Babylone, mais aussi de mettre en évidence Babylone par la parole du Seigneur, afin que les frères et sœurs puissent être libérés et le voir. John est là, n'est-ce pas? Il a raconté une fois qu'il était invité une fois et qu'il a parlé au sujet de Babylone. Et puis un frère qui est venu et lui a dit qu'il ne devrait pas parler de manière si claire, sans quoi les frères et sœurs vont s'achoper à cela. Et John a dit, si j'avais su cela, j'aurais sorti mon épée. Et cela m'a vraiment rappelé pourquoi. Parce que nous avons un cœur pour les frères et sœurs. Nous souhaitons que les frères et sœurs soient libérés. C'est pourquoi nous voulons être courageux et dispenser la parole de manière à ce que ça coupe des choses dans les cœurs. Amen.